Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, ma belle.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Éric Zemmour qui a visité le salon de la sécurité intérieure et il s'est amusé à viser des journalistes avec une arme, sauf que ça n'a fait rire que lui.
Mohamed, votre story du jour.
Un anniversaire ce soir à Babette, il y a 41 ans, jour pour jour, la plus grande farce de l'histoire politique française.
Patrick, votre édito du jour.
Le récit de la terreur du Bataclan, une journée d'audience que je vous raconterai au procès des attentats du 13 novembre.
Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Comme une envie de Lionel Jospin, figurez-vous que trois amis se sont mis en tête de trouver l'ancien Premier ministre et d'essayer de le convaincre de se lancer pour la prochaine présidentielle.
Autant de sujets que l'on soumet à notre invité François Hollande, un ancien président qui veut être utile et libre. Libre de penser, quitte à ne pas retenir ses coups. Il sera dans un instant sur notre plateau. Sylvie Vartan et Marina Foy sont nos invités du dîner, préparés par un chef breton qui a rapporté dans sa besace des cocos de Paimpol. Bonsoir Mathieu Robillard.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Robillard,
tout à fait.
Robillard,
oui.
Chef propriétaire du restaurant Bévan à Daouet. Ça fait beaucoup de mots compliqués.
Bévan à Daouet.
Dans les Côtes d'Armor.
Exactement, oui. Merci de m'accueillir ce soir. Donc ce soir, je vais vous préparer des cocos de Paimpol, girolles et salicorne.
Merci beaucoup, chef. À tout à l'heure. À quoi Emmanuel Macron croit-il vraiment ? 4 ans après, je ne le sais toujours pas, les Français non plus. Signé d'un président normal qui s'en prend dans son nouvel ouvrage au quinquennat anormal d'Emmanuel Macron. Un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. Critique qui n'étonne même plus à l'Élysée.
François Hollande, il nous a habitués depuis 4 ans à être très critique vis-à-vis du président de la République, du gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent. Ce qui me semble assez nouveau dans la séquence récente, c'est la vigueur de ses attaques vis-à-vis de son propre camp ou de ses propres amis. Tant et si bien qu'à un moment, on finit par se dire qu'il n'y a pas grand monde qui trouve grâce aux yeux de François Hollande, si ce n'est François Hollande.
Qui trouve grâce aux yeux de François Hollande, à part François Hollande? On pose la question à François Hollande. Il est ce soir notre invité. Bonsoir François Hollande, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Maintenant on n'a plus le droit.
Bonsoir.
Affronter, c'est le titre de ce livre dans lequel vous voulez alerter les Français des épreuves et des risques majeurs auxquels le pays va devoir faire face dans la décennie à venir. Et à vous lire, on comprend que la première chose à faire pour mieux affronter l'avenir, c'est de ne surtout pas réélire Emmanuel Macron. Un homme impatient, intrépide, imprévisible, prêtant le flanc au péché d'arrogance, brutal dans ses décisions, insensible devant certaines détresses et cultivant une pratique solitaire du pouvoir. Un président devrait-il dire ça? C'est-à-dire, devrait-il dire autant de mal de son successeur?
Écoutez, d'abord, ce livre n'est pas fait pour parler du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il se trouve que j'aborde ce sujet parce qu'il y a un désordre politique qui va bien au-delà de la présidence qui vient de, ou qui va se terminer. Le livre, il est fait pour éclairer les Français sur les grands enjeux qui arrivent et notamment une grande mutation qui va se produire, qui voit d'ailleurs ses premiers effets avec la hausse du prix de l'énergie. Cette grande mutation, c'est celle qui va concerner notre mode de vie à travers l'écologie, des reconversions industrielles, la formation professionnelle, sans doute des transitions qui vont être difficiles, mais qui peuvent être néanmoins surmontées. Et pour surmonter justement ces épreuves, pour être en capacité pour les années qui viennent de réussir cette grande mutation, il faut en terminer avec le désordre politique, dont Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable.
Mais l'un des responsables.
Il l'est parce qu'il est président et qu'il a forcément un bilan à présenter, qui n'est pas d'ailleurs fait de noir ou de blanc.
Il y a aussi
notamment dans la crise sanitaire, assumé son rôle et c'était très important qu'il le fasse. Et il n'a pas la seule responsabilité de la situation, puisque à droite comme à gauche, il n'y a pas eu la préparation d'une alternative. Ce qui fait que les populismes, et on en voit ici les éléments les plus dangereux, arrivent aujourd'hui à s'imposer dans le débat public. Donc voilà, il faut, pour préparer les grandes mutations, avoir aussi une démocratie vivante, respectueuse des grands équilibres, assurant le choix entre une gauche et une droite, parce que c'est ainsi que le pays a toujours avancé, mais la responsabilité, elle est collective. Et moi, ce que je fais, c'est pas simplement de porter un jugement sur un quinquennat, même si ça, c'est légitime, beaucoup le font, c'est d'essayer de convaincre, notamment la gauche, que pour arriver demain aux responsabilités de la France, il faut retrouver un axe, il faut retrouver une force. Et je pense que la social-démocratie est celle qui le permet.
Responsabilité collective, d'où la question justifiée finalement de Gabriel Attal. Qui trouve grâce aux yeux de François Hollande, puisque c'est la faute à la fois de la droite, de la gauche et du gouvernement?
Mais si on est dans ce désordre et dans cette confusion, c'est bien, et je prends ma part aussi, y compris en ne m'étant pas représenté en 2017.
On va en reparler.
Je prends ma part, mais il y a une situation qui est très spécifique à la France. La vague populiste, elle a été forte, elle a été puissante, mais elle est en recul partout dans le monde. Aux États-Unis, Donald Trump a cédé la place, Boris Johnson affronte des difficultés très grandes à cause du Brexit, l'extrême droite allemande a été défaite, l'extrême droite en Italie a été écartée des municipalités.
Vous citez que des pays où les populistes sont arrivés au pouvoir.
Oui, enfin en Italie,
ce qui n'est pas le cas de la France.
Mais en France, le populisme, il est encore dans une dynamique qui fait qu'il est même à deux têtes, ce qui rend d'ailleurs sa perspective d'accéder au pouvoir tout à fait
limitée. Marine Le Pen et Éric Zemmour.
Et donc, il y a pourquoi ce maintien ou même cette progression du populisme? Parce que les forces démocratiques n'ont pas assumé pleinement leur rôle. Moi, je crois aux grandes organisations, aux grandes familles politiques, aux idées politiques. Pour que les Français puissent ne pas se retourner vers le passé en pensant que c'était mieux ou qu'il y avait là une nostalgie à cultiver, il faut qu'ils puissent avoir un espoir dans l'avenir. Et ça, c'est, je crois, dans une campagne qui va s'ouvrir, puisque nous sommes qu'au début, la responsabilité des candidats. Et si je peux aussi dire mon mot à la gauche, quand elle est capable de présenter 5 candidats qui font entre 2% et 8%, bien, on peut se poser la question aussi de sa responsabilité. Quand la droite n'est pas capable de désigner son candidat ou d'attendre la fin de l'année pour le faire, alors qu'elle a eu 4 ans pour s'y préparer, c'est vrai que c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Et je pourrais m'en satisfaire en disant, vous voyez, finalement, le quinquennat de François Hollande, c'était pas si mal. Eh bien non, parce que moi, je suis soucieux de mon pays et j'ai envie qu'il gagne cette bataille pour la grande mutation.
Est-ce que vous avez encore aujourd'hui la conviction que vous auriez fait mieux qu'Emmanuel Macron si vous n'aviez pas renoncé à vous présenter?
Ça serait vraiment très prétentieux de le prétendre, de dire, j'aurais fait mieux, notamment dans la crise sanitaire. Ce que je peux simplement dire, c'est que moi, j'ai fait face à une crise, qui était la crise terroriste, et que je suis fier que les Français aient fait bloc pendant cette crise-là. Que la crise sanitaire était extrêmement difficile à gérer, compte tenu de ce que nous ne savions pas. Donc c'est trop facile de porter des critiques sur cette période-là. En revanche, je pense qu'il y a eu beaucoup d'occasions perdues après 2017. Il y a eu des choix, notamment fiscaux, qui ont été très malencontreux. Il y a eu un défaut de dialogue avec les partenaires sociaux, une négligence à l'égard du Parlement, un oubli des territoires, ce qui explique qu'on ait connu gilets jaunes et contestation sur la réforme des retraites, et un pays qui, je l'ai dit, est dissocié entre une partie qui va bien, qui est même dans l'euphorie, on le voit même en cette fin de crise sanitaire, et une large partie du pays qui pense que l'avenir n'est pas prometteur.
Avoir renoncé, vous l'avez regretté à plusieurs reprises, notamment au moment de la sortie de vos leçons du pouvoir.
Vous vous rappelez que Emmanuel Macron ne vous a pas battu, que ce n'était pas un rival. Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection?
J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Parce que qu'est-ce que ça aurait donné? Ce n'était pas moi qui aurais gagné, ce n'était pas lui qui aurait gagné. Et aujourd'hui, on aurait un président de la République qui mènerait une politique encore plus dure que celle qui est aujourd'hui.
Qui est déjà très dure, c'est ça?
Qui est difficile.
En 2022, vous, candidat, vous pourriez battre Emmanuel Macron?
Je ne suis pas candidat, donc cette question n'est pas à être posée.
Vous n'êtes pas candidat et vous ne le serez pas, parce que quand on vous pose la question, la réponse n'est pas claire. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a une candidate, Anne Hidalgo, mais tout est dans le « aujourd'hui ».
Je suis socialiste. Je suis constant dans mes engagements. Je n'ai jamais changé, je n'ai jamais varié. J'ai toujours été un social-démocrate conscient que pour que la gauche gagne, il fallait qu'il y ait un parti socialiste qui soit fort et qui soit réaliste et audacieux, qui soit sérieux. Bon, donc il y a une candidature socialiste, Anne Hidalgo, je suis socialiste, vous voyez, c'est un syllogisme assez facile, je voterai donc, comme je l'ai toujours fait, socialiste, et donc Anne Hidalgo.
Mais justement, comme vous tenez des propos très libres, et on vous le reproche, je me suis demandé si votre sincérité ne s'arrêtait pas à la candidate officielle du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, dont vous dites c'est une femme toute de sang-froid, de détermination et de ténacité. Bon, très bien, ça ne suffit pas forcément à en faire une présidente de la République, et vous lui promettez une tâche rude, elle prendra des coups, est-elle en position d'aller plus loin et plus haut ? Pour l'interrogation, vous ne répondez pas
à la question. – Ça, c'est à elle de répondre, c'est pas à moi de faire campagne à sa place, on me le reprocherait. De ce point de vue…
– Vous n'avez pas d'avis sur sa capacité d'aller plus loin et plus haut ?–
Sur sa stature.
Mmh. – Ben, si, j'ai un avis que je pense qu'elle a eu le courage d'être candidate, c'était pas si facile… Mmh. Elle doit maintenant faire la présentation de son projet, parce que dans une campagne présidentielle, c'est autour du projet que ça se détermine. Et enfin, elle doit être socialiste. C'est tout simple. C'est-à-dire être elle-même fidèle à l'histoire que ce parti a représentée et capable de porter la social-démocratie. Juste un mot sur la social-démocratie. Mmh. On sort d'une crise sanitaire où, finalement, ce sont les solutions qui étaient jusqu'à présent reconnus venant de la social-démocratie, qui se sont imposés. Le retour de l'État, la place des services publics, la redistribution, le souci de la solidarité. Et donc, dans la crise, parce que c'est une nouvelle crise que l'on va connaître, je ne veux pas être trop pessimiste, mais vous allez voir ce que l'urgence écologique, ce que le réchauffement climatique va provoquer, eh bien, dans ces choix qu'il va falloir faire, je pense que ce sont ces solutions-là qui sont bien meilleures que le libéralisme ou que le souverainisme, et a fortiori que l'extrémisme. Donc je suis fidèle à ma pensée, et ce que je peux donner comme conseil à Anne Hidalgo, c'est de se réclamer de cette pensée-là et de montrer qu'elle a des solutions. Je termine d'un mot. Je pense que ce qui va faire la différence dans cette campagne présidentielle, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle va être, puisqu'on est à 6 mois, c'est le sérieux. Je pense que les Français sont très conscients des enjeux, très soucieux de ce qui peut se produire, très inquiet du monde, et il y a de quoi ? La Chine, la Russie, les empires, les menaces qui pèsent, le populisme qui est là, une dette publique qui est considérable, et donc ils iront vers la candidature qui leur paraîtra la plus sérieuse, la plus honnête, et la plus capable d'assurer l'avenir.
Votre livre est très piquant. On le voit aux réactions épidermiques qu'il suscite, avec, il faut dire, une galerie de portraits teintée d'acide. Jean-Luc Mélenchon, qui grâce à son talent oratoire, à sa mémoire militante, aurait pu endosser le costume d'un nouveau Mitterrand, mais il lui préfère la tunique d'Arlequin, empruntant toutes les couleurs de l'opinion. C'est le boulet de la gauche, écrivez-vous. Arnaud Montebourg, vous écrivez « Surgissant hors de la nuit pour délivrer la France des griffes de Bruxelles, il se voit en Zorro de la politique, mais si un jour il siégeait au Conseil européen, il passerait vite pour un zozo. » Gabriel Attal avait raison. À part vous, rien ne va.
La vie politique ne s'arrête pas à ces personnages. Il y en a d'autres. Et j'ai des mots...
Pour Yannick Jadot, notamment.
Plutôt aimables pour Bernard Cazeneuve, Yannick Jadot, Christiane Taubira. Je fais la part des choses. Et Anne Hidalgo. Mais il se trouve... Je ne fais pas ça pour simplement piquer, ça n'a pas de sens, de piquer pour simplement régler je ne sais quel compte. Je ne suis pas du tout dans la rancune ou dans la rancœur ou dans la revanche. Mais enfin, franchement, Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est un fardeau pour la gauche. Il refuse toute alliance, il prend des positions qui empêchent tout programme commun, vouloir une 6e République, mais laquelle ? La fin de l'élection du président de la République au suffrage universel ? Sortir de l'Union européenne ? Faire annuler par la Banque centrale la dette de la France, ce qui est impossible, et sortir même de l'Alliance Atlantique, comme si la menace principale, c'était les États-Unis, pas la Russie ou la Chine. Donc comment faire un programme commun ? Comment permettre à la gauche de se retrouver ? Donc ces électeurs, eux, à mon avis, si on leur propose une solution meilleure d'accession au pouvoir, ils iront vers cette direction. Mais aujourd'hui, c'est un empêchement, justement, pour permettre d'accès au second tour. Arnaud Montebourg, que j'ai bien connu, il était membre d'un gouvernement et qui en est encore, lui aussi, à dire qu'il va arriver au Conseil européen et leur demander maintenant de céder sur toutes les règles qui font l'Union européenne. Il en est même arrivé à être d'accord avec les positions polonaises sur la suprématie du droit national par rapport au droit européen, alors que c'est le fondement même de l'Union européenne.
Donc il ferait mieux de s'abstenir.
Eh bien, vous avez raison.
Enfin, c'est sérieux, une question.
Pas sérieux, s'abstenir.
Voilà, donc...
Mais est-ce que, puisque vous prenez le mot d'abstention, parce que...
La candidate surprise
de
cette élection.
Oui, parce que je voulais y revenir. Nous avons regardé les élections régionales, départementales, avec surprise, autant d'abstention. Et nous pensons que c'était lié à la crise sanitaire. Non. Il y a une indifférence de nos concitoyens, rejet, un éloignement par rapport à la politique, c'est ça que je veux aussi souligner dans ce livre, qui fait qu'il est possible, si rien ne vient, s'il n'y a pas de l'espoir, s'il n'y a pas une conquête qui mobilise les électeurs, s'il n'y a pas des enjeux forts qui les animent et les déterminent, il est possible que l'abstention soit très forte au premier tour, pas simplement au second tour, mais dès le premier tour. Et par ailleurs, combien de Français ai-je rencontré qui m'ont dit « nous ne voulons plus voter contre », nous voulons voter pour. Et ça, c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir à l'esprit, parce qu'aucun second tour n'est assuré quand beaucoup de Français sont dans cette attitude.
Dans votre livre, comme on dit, vous distribuez beaucoup, et donc on remarque d'autant plus une relative indulgence à l'égard de Nicolas Sarkozy. En tout cas, à mes yeux, tel que je l'ai lu. Vous évoquez un président malheureux, un concurrent battu, mais un battant exceptionnel aux ressources inépuisables, singulièrement pendant la crise financière de 2008, vous dites « il n'avait rien à premier de la classe, mais quelle revanche plus éclatante que d'être le premier arrivé à force d'élan et d'assaut ». Et puis il y a une phrase qu'on voudrait vous voir quand même éclairer. Quand vous évoquez les différents dossiers judiciaires qui visent Nicolas Sarkozy, vous dites « la justice doit certes passer, mais le sort des politiques ne se règle pas dans les prétoires ». Donc, même à l'après son mandat, après ça, avoir quitté les responsabilités, un ancien président n'est pas injusticiable comme les autres.
Je dis, la justice doit passer. Oui. Et nul ne peut se mettre à l'écart de la justice. Mais ce n'est pas à la justice de savoir si un homme, une femme politique peut continuer à exercer son magistère moral ou politique. Donc,
Vous êtes contre les peines
d'inéligibilité. Non. Je pense que les peines d'inéligibilité doivent être prononcées quand il y a des cas suffisamment graves qui le justifient. En l'occurrence, aucune peine d'inéligibilité n'a été prononcée à l'égard de Nicolas Sarkozy. Elles sont suffisamment graves, mais elles n'ont pas été jusque-là. Donc, pour ce cas-là, je ne le pense pas. Par ailleurs, comme Nicolas Sarkozy a longtemps pensé que...
vous étiez responsable de ces enquêtes judiciaires.
Sous ma présence, c'était finalement à mon instigation que les juges le poursuivaient ou menaient des enquêtes. Je ne suis plus président, vous l'avez remarqué depuis maintenant près de 5 ans, la justice continue et il y a même d'autres affaires qui sont dévoilées. Donc à partir de là, je crois qu'il ne devrait plus s'inquiéter de ma propre intervention. Il n'y en a eu aucune. Moi, j'ai toujours respecté l'indépendance de la justice. Et d'ailleurs, un certain nombre de déclarations encore aujourd'hui du président Emmanuel Macron, il y a toujours cette suspicion à l'égard de la justice. Or moi, j'ai toujours défendu la justice.
Et vous faites la même dans votre livre, là.
Non, je ne fais pas la même. Je dis simplement que la justice doit intervenir, doit se prononcer, mais la vie politique, elle est aussi, pour Nicolas Sarkozy comme pour d'autres, ce sont les électeurs...
C'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Non. Non, il a évoqué...
Aux États généraux.
Il a évoqué le fait que la justice s'introduisait là où elle ne devait pas aller. C'est pas ce que je dis. Elle doit aller jusqu'au bout des procédures. Elle doit condamner si c'est nécessaire. Mais pour le débat politique, pour savoir si Nicolas Sarkozy doit poursuivre ou pas sa vie politique, c'est pas à la justice de le dire.
Le sort des politiques ne se règle pas dans les prétoires, mais dans les urnes, j'imagine. Éric Zemmour était ce matin au salon de l'armement Minipol, Émilie, avec une image qui a choqué.
Oui, la scène s'est déroulée au Salon mondial de la sécurité intérieure, qui a lieu tous les 2 ans. C'est ici que sont présentées les dernières innovations militaires, équipements tout genre, drones, robots, armes de pointe. Et c'est justement une arme d'assaut qu'Éric Zemmour a voulu tester. Sauf que cette arme non chargée, évidemment, il l'a prise en main et il l'a pointée sur les journalistes qui le suivaient.
Bonjour, monsieur le président, excusez-nous. serait protégé par ces armes-là.
D'accord. Ça rigole plus, hein.
Poussez-vous, là. Reculez, reculez.
Comment ?
Scène qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, qui a choqué et fait réagir la ministre déléguée au ministère de l'Intérieur, auquel le salon Millipol est rattaché. Voici donc le tweet de Marlène Schiappa. Viser des journalistes avec une arme en leur disant « reculer » n'est pas drôle, c'est horrifiant, surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire le pouvoir des médias. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. Aussitôt ce tweet publié, aussitôt lu à Éric Zemmour, qui a répondu à la ministre, image captée par Iban Raïs et Audrey Payas.
Marlène Schiappa est une imbécile, voilà ce que je lui réponds, qu'elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de chercher à monter en neige une polémique grotesque. Tous les Français vont se moquer d'elle et ce n'est pas la première fois.
Donc pour Éric Zemmour, la ministre s'est couverte de ridicule. Ceux qui, comme elle, ont pu être choqués, manquent d'humour.
Je me suis simplement amusé pendant 30 secondes et voilà, c'était pas, il n'y avait pas de message politique, il n'y avait pas de menace. Voilà, j'étais, je vous répète, à un salon où il y a des armes et donc je touche les armes.
Un non-candidat comme Éric Zemmour, François Hollande, peut-il rire comme ça ou au contraire, est-ce que vous comprenez que ça ait pu choquer, sachant que ce geste intervient alors que samedi dernier, Éric Zemmour avait dit vouloir mettre fin au contre-pouvoir comme la justice, les médias et les minorités. C'est ce à quoi Marlène Schiappa faisait référence dans son tweet.
Faut-il tout commenter ? Faut-il, à un moment, tout dénoncer ? Ce qui compte, c'est ce que déclare, c'est ce qu'écrit Éric Zemmour. Ça suffit.
C'est-à-dire que Marlène Schiappa n'aurait jamais dû réagir et commenter cette image.
Oui, donc elle peut dire ce qu'elle a envie de dire. Enfin, moi, je vais commenter ce type de comportement. Je pense que c'est suffisamment grave ce que fait, ce que dit Éric Zemmour pour diviser les Français, pour introduire une scission entre la France et l'Europe, entre les Français qui seraient soi-disant de souche et les autres qui seraient venus plus tard, entre les femmes et les hommes, entre les homosexuels et les hétérosexuels. Il faudrait qu'après on s'attache à savoir s'il a voulu faire une plaisanterie. Mais c'est pas un problème de plaisanterie. Là, on est sur des questions de fond. Et ce qu'il cherche, ça fait quand même des années qu'il le cherche, c'est d'exister à travers les médias et les antennes. C'est cette confusion entre l'univers. Oui, ce petit chose, on le connaît depuis 30 ans. Et jusqu'à présent, il était un amuseur un peu inquiétant sur les plateaux de télévision. Et il devient un candidat à l'élection présidentielle et bientôt un possible figurant au second tour de l'élection présidentielle.
Mais vous n'y croyez pas ? Vous pensez que le phénomène Zemmour va se dégonfler ?
Je pense qu'il est suffisamment dangereux par ce qu'il dit pour que les Français soient suffisamment inquiets et même effrayés de pouvoir penser qu'il pourrait être au second tour de l'élection. Même Mme Le Pen trouve qu'il est inquiétant. C'est vous dire où on en est. Sauf que, comme il est habitué des plateaux, on en est moins choqué. Ce qui devrait nous heurter, c'est qu'il est depuis des années sur une chaîne de télévision et qu'il tient débat et qu'il n'a même pas besoin de dire qu'il est candidat tout en engrangeant un certain nombre de soutiens.
Il y a eu un phénomène d'accoutumance.
Oui, je le pense. Et il n'est pas le seul. Il y a toute une galaxie autour d'Éric Zemmour. Et ça fait partie du débat politique. Et je pense qu'il faut le rehausser, il faut, y compris sur le plan des médias, être non pas intraitable, mais, parce que tout le monde a le droit à s'exprimer, mais enfin, sur un certain nombre de propos, de dire qu'il y a des limites, et notamment par rapport à un personnage qui a été condamné, tout à l'heure on parlait de justice, qui a été condamné pour incitation à la haine.
Et il faut s'inquiéter de sa montée incessante dans les sondages ?
Plus on en parle, plus une partie de l'électorat de Mme Le Pen va sur M. Zemmour. Peut-être même une partie de l'électorat de droite. Et vous me dites que je suis piquant. Mais enfin, si je peux piquer un peu, mais je serai à la place des responsables de la droite. Je ferai un mur, je placerai une étanchéité, comme d'ailleurs ça a été fait à l'égard de Marine Le Pen, à l'endroit d'Éric Zemmour, plutôt de copier un certain nombre de ses discours ou de ses déclarations.
L'un des thèmes qu'a réussi à imposer Éric Zemmour dans cette campagne, pré-campagne présidentielle, c'est l'immigration. Il y a d'autres sujets qui préoccupent les Français, on l'a vu, le pouvoir d'achat, mais aussi la sécurité, la menace terroriste, le terrorisme que vous avez dû affronter pendant votre quinquennat. Actuellement se déroule à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. Vous serez appelé à y témoigner le 10 novembre prochain. Patrick, hier, vous avez suivi une journée d'audience à ces procès du 13 novembre 2015.
Oui, dans l'immense salle d'assises construite au cœur de l'ancien palais de justice sur l'île de la Cité, une salle qui en a déjà beaucoup entendu sur les horreurs de cette soirée, mais qui se fige à nouveau hier à la diffusion d'une vidéo tournée par le journaliste Daniel Pseny, dont les fenêtres donnaient sur une sortie de secours du Bataclan. Les cris que vous allez entendre sont ceux d'un père à la recherche de son fils, Oscar. Les spectateurs qui fuient éperdus de terreur, et vous l'avez vu sur le mur du Bataclan, trois ombres suspendues dans le vide, trois spectateurs accrochés aux fenêtres ou à leurs rebords qui ont cru pouvoir s'échapper par les toits. À droite, vous allez le voir, David et Sébastien, à gauche, une femme enceinte. Elle dit enfin « je vais glisser » quand l'homme perché à ses côtés, Sébastien, lui tend un bras vigoureux. Cette femme a pu aller se cacher dans un local technique. David et Sébastien se sont retrouvés, eux, aux mains des terroristes.
Ils font partie des otages du couloir qui ont témoigné hier.
Huit clos terrifiants dans un couloir de 8 mètres de long sur 1 mètre 30 de large. Il y avait là 11 otages, 8 hommes et 3 femmes qui ont passé 2 heures et demie sous la garde et la menace permanente de 2 terroristes armés de Kalachnikov et sanglés par une ceinture d'explosifs. On connaît l'issue, l'assaut réussi de la BRI dans un déluge de feu. 27 balles tirées par l'un des tueurs, pas de blessés graves chez les otages. Mais toute la soirée, chez ces 11-là, la certitude de mourir. Un homme qui ricane est collé au mur pour un simulacre d'exécution. On lui tire à côté de la tête. Grégory va chercher son sac. Pourquoi tu prends tes affaires? Plus besoin, tu vas mourir. À David, si tu bouges, je te tue. On vient d'en tuer 100. Ça fera pas une grosse différence. Pensée dérisoire de Grégory. Est-ce que j'ai bien rangé mon appartement pour pas que mes parents aient trop de travail? David, accroupi, prend la main du type à côté de lui, qu'il ne connaît pas, Stéphane. Je ne voulais pas mourir sans un contact humain. Sébastien, ce soir-là, j'ai échappé 6 fois à la mort. Grégory encore, personne n'a craqué. On s'est tous mutuellement sauvé la vie.
Des témoignages qui nous renseignent aussi sur 2 des terroristes.
Oui, la plupart des morts du Bataclan n'ont pas vu leurs assassins. Les survivants du couloir les ont observés plus de 2 heures. Ils racontent leur joie enfantine à semer la mort, comme dans un jeu vidéo. Leur jubilation, même quand leur camarade Ami Moore explose sur la scène du Bataclan, ils semblent s'en amuser, comme si nous étions des objets, a dit l'un des témoins. Leur fixation aussi sur le président de l'époque, vous-même. Qui a voté Hollande, demande l'un des tueurs en pointant son arme. Leur exigence auprès de la BRI, d'une lettre signée par le chef de l'État pour le retrait des forces françaises de Syrie, leur improvisation enfin durant la prise d'otages. Ils n'avaient rien préparé en réalité et pas grand-chose à négocier.
Et comment se comportent les accusés durant ces longues heures de témoignage?
Alors je les ai vus calmes, impassibles, et même si c'est difficile à affirmer parce qu'ils ont le visage masqué, attentifs aux dépositions. Abdeslam, le principal accusé, n'est pas prostré. Il ne regarde pas ses chaussures durant ses récits terribles et intenses. Je l'ai vu échanger longuement en début d'audience avec 2 de ses conseils pendant 10 minutes, très loin de l'attitude de refus et de provocation qu'on avait observée au début du procès.
Vous serez donc présent le 10 novembre prochain, appelé à témoigner devant la cour d'assises spéciale de Paris. Pour y dire quoi, François Hollande? Et pour faire face à ses accusés, notamment à Abdeslam, dont les provocations ont été très remarquées depuis l'ouverture de ce procès?
Les parties civiles ont souhaité, en tout cas plusieurs d'entre elles, que je sois présent au procès, non pas pour faire le procès de l'État, mais pour que je puisse dire ce qu'a été cette longue soirée, cette nuit, du côté du chef de l'État, et ce qu'ont été les actions que j'ai pu mener, et aussi une explication sur la situation internationale qui est utilisé par les terroristes pour justifier l'injustifiable. Je viendrai donc répondre à toutes les questions. Ce n'est pas pour avoir une confrontation avec les accusés. C'est pour être du côté des parties civiles et avoir avec elles, avec leurs, bien sûr leurs avocats, le dialogue indispensable et bien sûr avec la Cour. Je suis le procès, je vois le courage qu'ont les survivants de venir décrire des scènes d'horreur. Horreur, c'est le mot que j'ai prononcé dans la nuit du 13 novembre. Et qui viennent pour que justice soit faite, sûrement, mais qu'une trace soit laissée pour l'histoire. Et aussi pour comprendre ce que peut être l'enchaînement du terrorisme, comment on en arrive là. Et c'est pour ça qu'ils attendaient aussi une parole du côté des accusés, pas simplement des incantations ou des protestations. Comment ils ont pu aller jusqu'à ce niveau d'horreur? Pour ceux qui sont... C'était votre retour de témoignage de ceux qui ont été dans le couloir pris en otage. Je les ai entendus aussi, et avant même qu'ils ne témoignent au procès. Quand on leur a posé la question... Et ici, qui a voté François Hollande? Vous imaginez? Vous êtes dans cette situation, je ne vous poserai pas la question ici, autour de cette table.
Ils ont dit qu'ils n'avaient pas voté.
Non, il y en a un qui a dit. Il a dit, non, moi je n'ai pas voté François Hollande. Parce que je suis chilien.
Oui.
Et David. Parce que je n'avais pas le droit de vote.
C'est David.
Sous-entendu, si j'avais pu voter, je l'aurais fait. Et donc c'est aussi des témoignages de courage et de force, et de bien montrer que la démocratie, parce que c'est ça le sens de ce que doit être ce procès, c'est que la démocratie, elle est plus forte que le terrorisme. C'est même avec ces personnages qui ne sont animés que par la haine, nous avons le droit qui fait qu'ils sont dans le box des accusés, qu'ils ont des avocats, et qu'ils peuvent répondre de leurs actes. Et c'est ça le sens aussi du procès. C'est que nous devons défendre notre démocratie, de ne pas penser qu'elle est faible, comme certains extrémistes voudraient le laisser insinuer. Elle est forte, la démocratie.
Et ce procès en est la preuve.
Ce procès est la démonstration que la démocratie arrive toujours à vaincre la barbarie. Et même, finalement, par rapport à Daesh, puisque c'est cette organisation qui avait frappé, et bien cette organisation a été éradiquée par l'action, notamment d'une coalition dans laquelle la France était présente.
Vous en parlez d'ailleurs du 13 novembre de cette nuit-là, notamment en évoquant, en traçant le portrait de Bernard Cazeneuve. Vous racontez que vous êtes pris l'un et l'autre dans les bras au terme de cette nuit.
Et en suivant cette audience, je me suis pris à regretter, même si ça pose des difficultés considérables, que ces images, parce que là, il y a une retransmission vidéo à l'intérieur du palais de justice, ne soient pas diffusées en temps réel, et plutôt que d'être gardées 15-20 ans plus tard pour l'histoire, parce que la vertu, la force des témoignages et la vertu pédagogique de ces rescapés est extraordinaire.
Rien n'interdira peut-être un jour que l'on exhume plus tôt ces images, si bien sûr un consensus est établi. Mais c'est déjà important qu'elles soient enregistrées pour l'histoire, car le procès, il vaut aussi pour la transmission aux générations.
Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec notamment la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous nous parlez ce soir de l'une des candidatures les plus marquantes à l'élection présidentielle. C'était il y a 41 ans, jour pour jour.
Le 20 octobre 1980, c'est l'histoire d'un mec qui décide de se lancer à la conquête de la France. Il y a 41 ans, jour pour jour, Coluche annonce sa candidature à l'élection présidentielle avec cette affiche publiée dans Charlie Hebdo. Depuis son quartier général de campagne, le théâtre du gymnase, Coluche en appelle aux fainéants, aux femmes, aux noirs, aux travestis, entre autres, à le rejoindre lors d'une conférence de presse.
Trouvera-t-il les 500 signatures pour aller jusqu'au bout de sa plaisanterie?
J'espère bien les avoir, parce que quand même j'ai fait plus de galas qu'eux, et donc j'ai rencontré plus de maires et de conseillers généraux que, sans avoir de gants de caoutchouc, j'ai déjà fait pas mal de poignées de main. Et donc normalement tout devrait aller. Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi.
L'homme qui a convaincu l'humoriste de se lancer dans cette aventure, c'est Romain Goupil, juste après leur envoi de Radio Monte-Carlo.
J'écoute. Ils t'ont interdit sur Europe 1, censuré sur plainte des anciens combattants et du ministère des Armées. Ils viennent de t'interdire sur Radio Monte-Carlo parce qu'on parlait trop de Giscard. La seule solution, c'est d'être candidat à la candidature pour pouvoir dire tout ce qu'on veut. La immense fou rire en disant « tu déconnes, c'est n'importe quoi, candidat à la candidature », je dis « ouais, c'est possible ».
Et oui, c'est possible. Dès la mi-novembre, plusieurs sondages non publiés donnent Coluche troisième avec 11% des intentions de vote à l'élection présidentielle. Derrière, François Mitterrand et Valérie Giscard d'Estaing, le Nouvel Observateur met en une l'artiste. Une trentaine d'intellectuels le rejoignent rapidement, comme Alain Touraine et Pierre Bourdieu. Coluche est alors suivi par les renseignements généraux. Une consigne est passée sur les trois chaînes de télévision françaises et sur tout le réseau de Radio France. Le nom de Coluche n'a pas le droit d'être cité à l'antenne. Il est dans la foulée menacé de mort. Mais Coluche n'ira pas plus loin que la farce. Pour être officiellement candidat, il faut avoir 500 signatures d'élus. Le comique se vante pourtant d'en avoir 632. Il n'en aura qu'une, son secrétaire de l'époque se souvient.
Quand on arrive à une moyenne de 10 à 12% dans les sondages, ça veut dire que c'est, la pression est très très forte. Donc, il va y avoir cet élément-là. Ensuite, dernier élément, quand il y a eu toutes ces amabilités qui se sont faites contre lui, plus ceux qui vivaient, à un moment donné, il est tombé dans une vraie dépression. Et Paul Lederman, qui était son producteur, a pris la décision de dire « Attends, ça suffit, là, il faut arrêter ».
La campagne de Coluche aurait donc plutôt servi les intérêts de la gauche. L'idée de départ était de servir de rampe de lancement à François Mitterrand, selon Jacques Attali.
Deux amis communs, qui étaient Michel Berger et France Gall, ont proposé de nous réunir à dîner. Michel et moi. Donc on s'est trouvés à dîner. Le dîner s'est d'ailleurs assez mal passé, on s'est engueulés. Mais à la fin du dîner, il était d'ailleurs très tard, 3h du matin, il m'a pris à part et il m'a dit « il faut que je te voie demain ». Et le lendemain, c'était un dimanche, je me souviens très bien, il est venu chez moi. Et il m'a dit « il faut que tu saches, nous n'avons aucune signature, je ne veux aucune signature, personne ne le sait, personne ne doit le savoir, et je ne veux pas être candidat, je veux faire battre Giscard et je vais t'aider ».
Sans plus d'explications, le 16 mars 1981, Coluche se retire. Dans la foulée, il annonce une grève de la faim pour dénoncer la censure qui le frappe à la télévision et à la radio. Il appelle ensuite à voter pour François Mitterrand, qui l'invitera à fêter la victoire de la gauche le 10 mai 1981 au siège du Parti socialiste. François Hollande, vous avez travaillé sur la campagne de 1981.
Pas la campagne de Coluche,
non,
je vous rassure.
Non, pas la campagne de Coluche, oui. On se rassure. Alors, que disait François Mitterrand de cette campagne et de cette candidature de Coluche à l'élection présidentielle, en privé en tout cas, en coulisses?
Non, je n'ai pas eu de retour de la part de François Mitterrand.
Ou de Jacques Attali.
De Jacques Attali, oui. Mais dans cette aventure, ça commence comme un gag. Coluche déclare qu'il va être candidat pour... essayer de brouiller les pistes et d'amuser un certain nombre de nos concitoyens par rapport à une vie politique qui les déçoit. Parce qu'on en est déjà là, en 1980.
Moins qu'aujourd'hui, peut-être.
Moins qu'aujourd'hui, mais quand même, en se disant, ça va être encore François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, le match retour, est-ce que c'est bien, nécessaire? Bon, il y avait cette critique de la politique. Et il se prend au jeu, Coluche. Il se prend d'autant plus au jeu, c'est toujours intéressant, c'est que des intellectuels, mais pas n'importe lesquels, vous les avez cités.
Pierre Bourdieu, Alain Touraine.
Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Foucault, je crois, Deleuze, se mettent aussi à espérer la candidature, tellement ils voulaient faire exploser le jeu. Et
c'est quand même
le mérite, déjà, bien sûr. Et c'est quand même le mérite de Coluche, à un moment, d'avoir la lucidité de dire non. Nous n'irons pas plus loin. Et
c'est pas une campagne de presse qui était...
Sans doute, et il en a beaucoup souffert.
Ouais.
Et c'est pour ça aussi que son engagement ne s'est pas arrêté là. Et s'il y a les restaurants du cœur, c'est parce qu'il a eu un moment cette volonté d'être utile. Et c'est ce que je crois on peut reconnaître à Coluche, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement un amuseur, c'est qu'il voulait aussi changer à sa façon la vie, et notamment des plus pauvres.
Et la leçon à retenir aujourd'hui?
C'est que la vie politique, elle doit être respectée. C'est qu'il faut qu'il y ait des grandes formations, il faut qu'il y ait des personnalités qui prennent les risques d'être président ou d'être candidat. Et je raconte toujours cet épisode. Il y avait le Larzac qui était occupé par des manifestants. François Mitterrand, en 1975, s'y rend. Il est hué, il est sifflé, il est renvoyé. Il faut qu'on aille chercher les CRS pour l'extraire de ces manifestations. Et en 1980, quand il est élu, eh bien, les mêmes pleurent. Voilà. Parce qu'à un moment, la bataille, l'engagement, tout ça doit se traduire sur le plan politique. C'est ça le sens de l'élection. Et si je fais ce livre, c'est aussi pour dire que l'engagement, le vote, la démocratie, c'est important. Et que la vie politique, elle a ses règles. Et c'est quand elles ne sont plus respectées qu'on a effectivement des aventures. Et l'aventure, elle est possible. Quand c'est celle de Coluche, ce n'est pas grave. Quand c'en est une autre, c'est plus inquiétant.
Merci beaucoup, Mohamed. Merci tout à l'heure pour la Story Média. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Au sommaire ce soir, Mathieu.
Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous. Le passe qui ne passe pas dans les dom-toms. Le CHU de Fort-de-France autorise les soignants non vaccinés à venir travailler tout de même. On va en parler dans un instant. Les étudiants précaires. Nous avons assisté à la distribution de colis alimentaires de l'association Un Rien, C'est Tout à Roubaix. Et puis, qui pour la gauche en 2022? Trois amis sont partis à la recherche de Lionel Jospin pour le convaincre de se présenter.
Une exception française à la une. Le CHU de Fort-de-France en Martinique renonce à imposer le pass sanitaire à son personnel.
Une décision surprenante. Vendredi dernier, je voudrais vous raconter cette manifestation déjà qui dégénérait sur place. Des soignants opposés à l'obligation de pass sanitaire pour travailler face à des forces de l'ordre. Ça, c'est ce que vous voyez. Ils font comprendre que sur place, et contrairement à la situation en métropole, moins de la moitié des agents du CHU seraient vaccinés. Alors, il y a un débat là-bas. Il faut trancher entre faire respecter les règles sanitaires ou permettre la continuité de soins à l'hôpital. Écoutez ce que disait le directeur du CHU de Fort-de-France ce week-end encore.
On a besoin de tout le monde pour soigner. L'hôpital est plein en ce moment. Les urgences sont pleines. On a un vrai retard de soins. Il faut absolument qu'on arrive à être assez pédagogique pour convaincre les gens d'aller vers la vaccination.
Résultat, c'est dans un communiqué que ce même directeur a annoncé l'assouplissement des règles, exception validée par le ministère des Outre-mer dans un souci d'apaisement. Il faut dire que l'acceptation de la politique vaccinale est compliquée hein, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la population générale comme chez les soignants. Écoutez cette question d'une députée de Guadeloupe à l'Assemblée et la réponse du ministre de la Santé.
Sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, je vois chaque jour la peur, l'angoisse, les tensions des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes face à l'obligation vaccinale. La réalité du taux de vaccination dans notre territoire est inquiétante. Cette réalité-là n'est pas viable pour assurer la continuité des soins.
Est-ce que nous devons baisser les bras et considérer qu'en Guadeloupe ou en Martinique, l'obligation vaccinale des soignants et donc la protection indispensable pour les malades et les personnes fragiles ne serait pas plus importante ou pas aussi importante que sur le reste du territoire de la République? La réponse est non.
Bon, de fait, on revient dessus, donc vous l'avez compris, par souci d'apaisement, voilà pour la question des Outre-mer ce soir. Alors qu'hier, à l'Assemblée, était examiné, non sans débat, vous allez l'entendre, le texte qui permet de maintenir le pass sanitaire ou de déclencher l'état d'urgence jusqu'à l'été prochain.
C'est un réel déni de démocratie que vous souhaitez imposer. Rien dans une démocratie ne peut justifier de ne pas convoquer les représentants du peuple en cas de crise grave.
Depuis des mois, nous sommes dans une forme de banalisation de cet état d'urgence.
Vous nous demandez de valider le maintien de ce régime au-delà de l'élection présidentielle. Personne ne saurait prédire le résultat de cette élection. Alors pour quelles raisons entêtez-vous à nous faire prendre le risque de confier de tels pouvoirs à des extrémistes ? C'est inacceptable et totalement irresponsable.
François Hollande, sur cette question, la question sanitaire, il faut laisser les mains libres à l'exécutif. Vous l'auriez voté, ce texte ?
Je ne suis pas parlementaire, donc je peux me libérer de toute contrainte. Mais je pense que dans une crise sanitaire, il y a nécessairement une responsabilité de l'exécutif. Est-ce qu'il y a pour autant l'obligation, la nécessité de lui confier tout pendant une longue période, c'est ce que disent les parlementaires, mais il se trouve que le Parlement s'arrête au mois de février, donc il va y avoir une suspension de l'activité des travaux. Et comment faire pour réunir le Parlement s'il y a une crise aiguë? Bon, donc c'est au gouvernement, même dans la période de l'élection primaire, de continuer à informer les élus, la population, de ce qu'il a à faire. Mais vous savez, autant je peux être critique sur un certain nombre de choix qui ont pu être faits, autant sur la crise sanitaire, l'enjeu c'est à un moment de prendre la bonne décision et de s'y tenir. Et vous savez que moi je suis pour la vaccination, je suis pour le pass sanitaire, parce que c'est la seule façon d'en sortir.
La rentrée étudiante s'est aussi accompagnée de reprises de distribution d'aides alimentaires.
Un tiers des étudiants vit sous le seuil de pauvreté. À l'IUT de Roubaix, Iban Raïs et Audrey Payas ont accompagné une distribution de colis alimentaires avec le concours logistique du Secours Populaire. C'est l'association Un Rien C'est Tout qui finance et qui est à la manœuvre.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'il y a dans un sachet ?
On a commencé par des petits déjeuners et aujourd'hui on a complété avec des sacs d'hygiène. Et aussi maintenant des produits frais, des fruits, des légumes. On a installé un système de marché, les étudiants viennent, se servent, prennent tout ce qu'ils ont besoin. Au départ, certains venaient, alors pas avec réticence, mais un peu honte. Ils ont les moyens de faire certaines études, mais pas de pouvoir s'alimenter au quotidien. Et en tout cas, nous, on essaye toujours d'être dans la bienveillance.
Une distribution du même type était organisée au mois d'avril et l'association Un Rien C'est Tout avait compté une cinquantaine d'étudiants. Hier, ils étaient 400.
Vous passez là pour soit cocher si votre nom est déjà ou vous inscrire et puis après, bah, vous n'avez plus qu'à faire votre tour de marché.
Qu'est-ce que vous êtes venu prendre aujourd'hui ?
Un peu de tout. Parce que c'est quand même vachement bien quand on n'a pas beaucoup de budget en étudiante.
Le Covid, ça a mis mal tout le monde. T'habites encore chez tes parents ?
J'habite encore chez mes parents.
Ça les aide aussi, comme moi je mange pas tout. En plus, les légumes comme les aubergines, je donne à ma mère. Hein.
On est paré, on est OK ?
Surtout les fruits et légumes qui sont extrêmement chers en ce moment. Ça me permet de manger plus équilibré.
Comment elle se passerait cette rentrée s'il n'y avait pas ce genre d'initiative pour vous ? Est-ce que ça serait plus compliqué ?
Financièrement, oui, parce que moi je suis sur un prix étudiant, donc toute aide est bonne à prendre.
Qu'est-ce que ça t'inspire de voir que la file, elle est vraiment hyper longue d'étudiants qui sont en manque de produits alimentaires ?
On est vraiment dans le besoin. Du coup, on voit que cette file, elle représente vraiment les étudiants en 2021. Donc en vrai, c'est très sympa ce qu'ils font et force à nous, hein.
Pour la fondatrice de l'association, c'est un premier geste, mais il y a surtout urgence à s'occuper de nos jeunes.
Il y a à peu près un étudiant sur deux qui a du mal à se nourrir, la preuve. Donc moi je trouve ça inadmissible et ça me met très en colère parce que les étudiants et les jeunes, c'est nos adultes de demain. Il ne suffit pas de se lamenter là-dessus, il faut maintenant se relever les manches et puis faire des choses, agir, trouver des solutions, les mettre en place et de façon pérenne. Moi je me dis, bah, c'est 200 étudiants qui vont pouvoir manger là et c'est déjà ça. C'est un plus un rien, c'est tout, quoi.
C'est l'une des propositions que vous faites dans ce livre et que vous aimeriez être reprise par un candidat à gauche, c'est des dotations universelles pour les jeunes.
Oui. D'abord, un mot sur l'association Un Rien, c'est tout, puisque je préside une fondation qui aide un certain nombre d'innovations sociales. Un Rien, c'est tout, c'est une très belle initiative qui s'ajoute à d'autres et qui permet, chaque fois qu'on achète un bien dans une grande surface, d'avoir un supplément qui va vers justement l'aide alimentaire. Donc c'est très important qu'on en voit ici la traduction. Mais vous vous rendez compte qu'on est au 21e siècle, dans un pays développé, qu'il y a 400 jeunes qui attendent pour avoir des légumes et pour éventuellement les cuisiner ou les donner à leurs parents pour qu'ils puissent manger. Donc on a vécu sans doute, à travers la crise sanitaire, des éléments de renforcement des inégalités. Et on a beaucoup parlé, et à juste raison, des personnes seules, âgées. On a peut-être moins parlé des jeunes et des étudiants notamment, qui sont dans un grand isolement et dans une grande précarité. Donc c'est pour ça que je propose, et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, qu'il y ait un revenu jeune de 500 euros qui puisse être pour les étudiants, avec des conditions de ressources sûrement, pour ceux qui sont en formation, ceux qui sont hélas nulle part, parce qu'on ne peut pas laisser un jeune aujourd'hui faire la queue pour, on parlait de Coluche tout à l'heure, pour avoir l'intervention du Secours Populaire ou des Restaurants du Cœur ou d'un Rien C'est Tout. Et puis je pense, alors ça c'est une autre proposition, que lorsqu'on atteint 18 ans, il pourrait y avoir cette formule d'une dotation de 10 000 euros pour, bah finalement, pour chaque jeune, qu'il puisse commencer dans la vie avec un pécule pour se former, pour voyager, pour créer une activité, pour être dans une association, voire même une entreprise. Voilà ce que je crois. Moi, j'ai toujours conçu que la première priorité, ça vaudra peut-être pour l'élection présidentielle, ça doit être la jeunesse.
Total accusé d'avoir minimisé l'impact de ses activités sur le réchauffement climatique.
Total et Elf, en réalité, qui ont fusionné en 1999, trois chercheurs ont eu accès à des archives des deux pétroliers et on apprend que les risques liés au réchauffement climatique étaient connus dès 1971 et que, alors même qu'il y avait un consensus scientifique, après le premier rapport du GIEC en 1990, les pétroliers français savaient, ont ralenti les efforts en organisant le mensonge, le doute, la décrédibilisation de la parole scientifique. Regardez cet extrait du magazine Complément d'enquête sur France 2 consacré à cette affaire demain soir.
Chez ELF, on prépare la riposte avec ce plan d'action présenté à la direction générale du groupe en 1993. Cette fois, le discours a radicalement changé. Plus question de certitude sur le risque climatique, place à la stratégie du doute. Le plan détaille des éléments de langage pour rallier les Français à la cause de l'entreprise.
Montrer que, contrairement à une idée à la mode, l'écologie est plus destructrice que créatrice d'emplois. Développer le thème, les charges de l'environnement sont supportées par le contribuable et ou par les consommateurs. Répercussions inéluctables dans les prix de vente.
Alors le dossier entier, c'est demain soir sur France 2 à 23h. Mais après ces révélations, on fait quoi ? Camille Schmitt a pu interroger Arnaud Gossement, avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Dès 1972, on a déjà une connaissance mondiale du changement climatique. Et donc j'imagine qu'une grande entreprise comme Total le savait. De ce point de vue-là, ce n'est pas une surprise.
Est-ce que des répercussions juridiques sont envisageables ou loin de là ?
Vous avez affaire à un travail d'historien qui paraît tout à fait précis et implacable. Ce n'est pas un acte d'accusation rédigé par un procureur. Je trouverais dommage qu'on réduise le sujet à la responsabilité de la société Total. En réalité, la société Total est évidemment partie liée avec l'État français et en réalité, il y a une responsabilité commune. Ce sont l'ensemble des États du monde entier qui, depuis 50 ans, ne prennent pas les mesures pour avancer plus vite.
Vous entendez Arnaud Gossement, il renvoie la responsabilité aux États. Alors je vous repose la question, on fait quoi ?
Qu'il y ait eu le refus de regarder en face le réchauffement climatique, c'est une évidence, pas simplement de ELF à l'époque.
Non mais là il est question de manipulation de l'opinion.
Oui, de cette entreprise,
oui.
Pas de l'État.
Non.
L'État, à cette époque, devait lui aussi engager des politiques de lutte contre le réchauffement climatique, mais il y avait un débat, y compris parmi certains scientifiques,
oui.
Douteux d'ailleurs,
oui,
vous vous rappelez,
Claude Allègre, en l'occurrence,
oui. Qui disait qu'il niait le réchauffement climatique, les climates, oui. Ce qu'on appelait les climato-sceptiques. Donc, on peut d'ailleurs comprendre que peut-être était-il, disons, influencé, pour ne pas dire davantage, par ces compagnies pétrolières ou énergétiques. Mais encore aujourd'hui, vous avez aussi des candidats qui nient le réchauffement climatique. Donald Trump, aux États-Unis, mais Eric Zemmour nie le réchauffement climatique. Donc il y a toujours chez les populistes l'idée qu'on nie le réchauffement climatique. Or, il est incontestable, et c'est vrai que c'est au début des années 70 qu'il y avait eu un rapport, qui était le rapport Meadows, qui avait déjà pointé le danger de l'épuisement des ressources naturelles. Alors après, est-ce que les États ont toujours fait ce qu'ils devaient faire ? Est-ce qu'ils n'ont pas lutté suffisamment contre les thèses qui niaient le réchauffement climatique ? C'est évident. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ce livre, nous allons avoir une mutation très importante à accomplir. Le prix de l'énergie, dont on parle beaucoup en ce moment, mais il va cesser de monter. Il faut quand même se le dire, pas simplement entre nous.
Oui, c'est pas une parenthèse qui pourrait se fermer là au printemps.
Voilà, vous savez que sous mon quinquennat, il y a eu la COP21. Mmh. La COP21 a fixé l'idée qu'il y aurait un prix du carbone. En 2021, il va y avoir la COP26. Et la COP26, si elle est réussie, donnera un prix du carbone. Donc ça va augmenter le prix de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'essaye pas de camoufler cette réalité. Il faut qu'on se débarrasse des énergies fossiles. Il faut aussi qu'on ait du nucléaire et des renouvelables pour faire de la production d'électricité, les deux à la fois. Mais ça veut dire qu'il faut faire tout un système de redistribution pour que les plus modestes, mais pas simplement les plus modestes, pour que le plus grand nombre de Français soient apaisés, soulagés de cette hausse continue du prix de l'énergie.
Autant de réflexions que vous livrez dans Affronter, qui quand même est un livre de presque candidat. En tout cas, il y a de quoi faire un programme dans ce livre. Affronter, qui sort aujourd'hui, c'est Stock. Merci beaucoup François Hollande
d'avoir
accepté notre invitation.
Et demandez le programme. Donc,
Le programme de François Hollande, qui sera peut-être candidat, on ne sait pas. Vous ratez Sylvie Vartan, François Hollande.
Ah non, mais si vous me demandez de rester, je reste avec Sylvie Vartan.
Ah ben, vous restez avec Sylvie Vartan, c'est vendu. A tout de suite avec Sylvie Vartan, qui sera notre invité dans un instant. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je suis là.